Les forces de l'ordre continuent leurs opérations de déblayage dans les provinces nord et sud, des interventions qui rencontrent parfois de la résistance. Le président de la province des îles, Jacques Lallier, était l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence ce midi. Il était notamment interrogé sur la situation sur le territoire depuis le 13 mai. Quelle sera votre prochaine sortie ce week-end? Marché de produits locaux ou découverte des artisans calédoniens à la Maison des Artisans? Il y en aura pour tous les goûts, un programme à retrouver dans notre journal. Et puis, le sport ne sera pas en reste ce week-end, avec notamment le retour de la Ligue 1, mais aussi du cyclisme, du rugby et du tennis. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Je vous le disais en titre, un peu partout sur le territoire, les forces de l'ordre continuent les déblaiements et plusieurs équipes étaient aujourd'hui à Saint-Louis, Gilles Ménage.
Oui, depuis ce matin, les forces de l'ordre sont en effet accompagnées d'engins de terrassement et de centaures pour continuer à enlever les véhicules et les encombrants qui bloquent l'axe routier. Des émeutiers armés ont tiré à balles réelles pour tenter de stopper cette opération au niveau du Vallon d'Or. Il n'y aurait à ce stade pas eu cependant d'interpellation. Et puis des chicanes ont été signalées dans la zone de la Conception. À Poya, les gendarmes ont déblayé toute la journée les restes de barrages mis en place ces derniers jours par les émeutiers. La situation est calme après trois jours tendus au cours desquels une dizaine de gendarmes a été blessée. Enfin, à Nouméa, un nouvel incendie de la société Lefroy. Un panache de fumée s'est dégagé de l'usine vers 10h ce matin. Selon les premiers éléments, des détritus ont été allumés à l'intérieur de l'usine qui avait été détruite le 13 mai. Le risque de propagation est inexistant car les produits toxiques avaient été retirés de l'usine par l'entreprise, ce qui a évidemment facilité l'intervention des pompiers.
Et puis retour sur les événements à Thio, ça devait être une opération de déblaiement ordinaire. Hier, les gendarmes ont finalement été pris à partie par un groupe extrêmement hostile et violent. D'abord visés par des jets de pierre, ils ont reçu des cocktails Molotov avant d'essuyer des tirs par arme à feu. Ils ont donc riposté. Un émeutier touché à la tête est décédé lors de son transport vers le CHT. Il s'agit d'un homme de 43 ans résidant à Thio. Un autre a été touché au cou et son pronostic vital est toujours engagé. Le procureur de la République, Yves Dupin, indique que cette opération avait été préparée à l'avance et notamment avec les autorités coutumières.
Cette mission, elle était plutôt classique et un travail avait été mené en amont avec les coutumiers par la gendarmerie de manière à libérer cet axe. Après, effectivement, une concertation, mais les gendarmes qui remplissaient leur mission, qui consistait à libérer les axes de la route, ont été visés par des projections de pierres, des cocktails Molotov et plusieurs tirs d'armes à feu. Ce groupe d'individus s'est montré particulièrement hostile et vraiment dans la recherche d'une confrontation et dans la volonté de s'en prendre à l'intégrité physique des gendarmes. Et ceci, c'est totalement inacceptable dans un état de droit.
Trois enquêtes ont été ouvertes, notamment pour savoir si l'usage des armes de service par les gendarmes constitue ou non une riposte légitime et proportionnée à l'attaque dont ils ont été la cible. Une procédure automatique, explique Yves Dupin.
C'est une procédure tout à fait normale. Dans une démocratie, effectivement, eh bien, il est tout à fait impératif de vérifier par rapport aux forces de l'ordre les circonstances, les conditions de l'usage des armes. Et donc le parquet s'est appuyé sur cette inspection générale de la gendarmerie nationale avec effectivement des enquêteurs du bureau d'enquête judiciaire de ce service pour vérifier cet usage des armes et pour permettre au parquet d'orienter cette procédure. À ce stade, la riposte, effectivement, semble tout à fait légitime, mais encore faut-il, bien évidemment, faire un certain nombre de vérifications. C'est le sens de cette enquête.
Ces faits d'extrême violence hier matin ont été accompagnés par de nombreuses exactions. Et une fois encore, les installations de la SLN ont été victimes d'incendies et de dégradations. Politique maintenant, Jacques Lallier comprend ce qui s'est passé depuis le 13 mai, mais il le regrette. Le président de la province des îles était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Jean-François Baudin.
Je comprends, mais je regrette. C'est ce que déclare Jacques Lallier quand on l'interroge sur la violence insurrectionnelle que connaît la Nouvelle-Calédonie depuis trois mois.
Je dis que je comprends, parce que cette situation est issue...
Et vous ne condamnez pas ces excès ?
C'est issu d'une situation politique.
D'accord, mais ça, ça donc, vaut une condamnation quand même.
Ben, on est déjà condamné, d'abord, par rapport à la situation actuelle. On a des prisonniers, on a des gens qui sont morts, il y en a qui meurent. C'est pour ça que je dis que je respecte les gens qui ont des situations en difficulté, et c'est pour ça que je ne veux pas les enfoncer encore plus. Moi, président d'une province, d'une institution, j'appelle les jeunes à se relever, mais en tout cas, il faut que la solution, c'est une solution politique qu'il faut faire aboutir dans les prochains mois.
Le président indépendantiste de la province des Îles appelle une solution politique et s'il ne désavoue pas la CCAT, il reconnaît que le mouvement a échappé à l'Union calédonienne.
Le CCAT n'est pas fait pour destruction, le CCAT était fait pour la coordination. Là, effectivement, on a été un peu dépassé. Puis on a, j'invite encore une fois les militants à se ressaisir et à favoriser l'inscription dans le dialogue et dans la construction du pays.
Et Jacques Lallier reconnaît aussi que rien ne justifie l'ampleur des dégâts causés et la destruction du tissu économique.
J'ai dit que je regrette parce que ça ne valait pas à ça, mais il faut qu'on aille aussi. Pourquoi c'est ça ? Pourquoi cela est arrivé ? Et donc, moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit au Congrès, qu'il faut qu'on prenne bien qu'il y a une responsabilité de l'État et que donc, c'est à l'État de revenir pour la reconstruction. Il y a des discussions qui se font. Moi-même, j'assiste à des réunions avec le ministère de l'Économie en l'essence. Après, on ne peut pas conditionner à des réformes. On va mettre des réformes aujourd'hui. Les réformes, c'est plutôt les réformes d'aménagement des lieux. Et aujourd'hui, tout part de Nouméa, peut-être qu'il faudra faire partir du Nord et surtout des îles.
Il faut maintenant reconstruire et le président de la province des îles estime que c'est obligatoire et que le vivre ensemble n'est pas condamné par les émeutes.
Le destin commun, le vivre ensemble, il n'a pas été brûlé. Il y a du métissage, il y a des relations, simplement il y a des structures économiques qui ont été brûlées. Et non, il ne faut peut-être pas utiliser comme un échec du destin commun ou du vivre ensemble. Il faut plutôt inscrire dans le cadre d'une histoire que la Nouvelle-Calédonie a vécue. Il y a eu une colonisation de peuplement. Il y a un peuple qui a accepté d'accepter les autres, différents accords qui ne changent pas d'avis. Et par contre, ils continuent à maintenir, sauf que les rapports avec l'État, il faut que l'État il soit plus à la compréhension et non pas seulement à l'écoute. Moi, j'ai dit que le président de la République m'a beaucoup écouté et ne m'a pas entendu.
Je considère que le 24 septembre est une fête citoyenne, déclare encore Jacques Lallier, qui formule une proposition pour les discussions à venir.
Moi, je l'ai dit à mes partenaires, que ce soit d'en face, que nous, on doit partir dans une discussion. Sur la souveraineté, on a bien vu aujourd'hui qu'on ne peut pas y passer. Par contre, voir comment on peut, après la discussion sur les valeurs d'une souveraineté, pas seulement en faveur de la Calédonie, mais aussi les rapports qu'on peut avoir avec l'État français pour sécuriser toutes les dynamiques géopolitiques. Puis voir aussi comment on peut travailler pour que les Calédoniens puissent demain occuper les postes de tribunal ou militaire. Enfin, on a un certain nombre de choses à mettre en place. Et donc, moi, je préconise qu'on discute sur la souveraineté avec une période transitoire qui va de 10 à 20 ans pour construire, mais avec une gestion politique des choses. On a fait une gestion économique jusqu'à maintenant, financière plutôt. Et donc, on est tombé à côté de l'accord de Nouméa et puis l'accord de Matignon.
On trouvera la solution dans un accord pour le corps électoral, affirme le président de la province des îles, qui préfère parler de souveraineté plutôt que d'indépendance.
On n'aura pas d'indépendance. Au terme d'indépendance, de toute façon, il n'y a plus de pays indépendants. Même la France n'est pas indépendante, même les États-Unis. Par contre, il y a des valeurs de souveraineté qu'on devrait promouvoir en partenariat parce qu'il y a des choses que nous, ici, on ne peut pas faire, mais il y a aussi des ajustements, des réformes qui doivent être faites.
Pour Jacques Lallier, des discussions politiques sont nécessaires et il faut que chacun sorte des positions radicales. Il a également été interrogé sur la situation de la province des îles qu'il préside et notamment sur l'avenir de l'hôtel Ouadra Bay.
Je souhaite quand même l'ouvrir avant les prochaines élections. Je dis ça pour vous plaisanter, parce que ça fait depuis le mois de mai, le chantier est en retard depuis plus de 5 ans. Donc c'est pour ça qu'on est voué à des opérations de défiscalisation en subi et remboursement sans exploitation. Donc c'est la province qui fait les effets. Là, on a prévu, en accord avec notre partenaire, d'essayer de voir pour septembre, parce qu'on s'est basé un peu sur l'expérience de Fidji, où il y a eu le coup d'État, c'est qu'au bout de 3 mois, 4 mois, ça a une relance. Bien sûr, il y a une considération en termes de plateau tournante ou en termes de transport ou en termes de coûts. C'est aujourd'hui un devoir pour moi d'ouvrir, c'est même une obligation d'ouvrir ça, quel que soit le partenaire, s'il faut faire tout seul ou il faut faire avec le partenaire, en tout cas, il faut l'ouvrir avant la fin de l'année.
Une interview de Jacques Lallier qui sera rediffusée dimanche soir juste après notre édition 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Et puis, deux rendez-vous politiques ce week-end. Ils s'inscrivent dans le cadre de la préparation du congrès du FLNKS, programmé pour l'instant à la fin du mois. L'Union calédonienne réunit demain un comité directeur à la tribu de Boyenne à Vaud. De son côté, l'UPM a convoqué un comité central toujours à Vaud, mais toujours à la tribu d'Unjo.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et notre question du jour. Au lendemain de l'Assomption, pensez-vous que la religion peut avoir un rôle dans la résolution de la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1 et si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. 17h56, l'heure de marquer une première pause dans ce journal et nous verrons ensuite comment la Chambre d'agriculture et de la pêche tente de s'adapter à la crise actuelle.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et la Chambre de l'agriculture et de la pêche qui s'adapte à la crise et change de stratégie. Concentrée jusque-là sur le développement de ses filières, elle vise désormais la mise sur le marché de ses produits, Gilles Ménage.
De nombreuses surfaces commerciales en moins, des départs en cascade et une baisse de pouvoir d'achat. Les produits maraîchers qui arrivent bientôt en pic de production pourraient en effet connaître des problèmes d'écoulement à court et moyen terme. Les précisions de Jean-Christophe Gnotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche.
On rencontre à présent sur la filière, les filières végétales en particulier, la problématique de la mise en marché, puisque on a donc la conjonction de plusieurs facteurs. D'une part, la production, on est en phase de l'année où la production augmente, et on n'est pas encore au pic, hein, puisque c'est à partir de septembre-octobre qu'on sera au pic. Et par rapport à ça, vous avez les circuits de distribution classiques qui sont totalement bouleversés, puisqu'on a 20 000 m² de surface commerciale qui ont été détruites dans le Grand Nouméa. Vous avez donc une partie des consommateurs qui sont partis et d'autres qui s'en vont encore, donc qui sont des consommateurs de produits frais. Et puis, on a quand même, on le voit bien, une perte de pouvoir d'achat de manière globale, ce qui fait qu'on a une problématique aujourd'hui entre la production, l'offre et la demande, qui va nous poser problème dans les semaines et mois à venir. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture et de la pêche oriente sa stratégie vers la mise en marché. Et cela passe par le développement de marchés de producteurs.
Des marchés de proximité où la production maraîchère est vendue au plus près des consommateurs, au meilleur prix. Le concept se développe déjà à Bouraille, à la fois à Dimbéa et aussi au Mont d'Or Sud, où les producteurs de cette zone, bloqués par la RP1 à hauteur de Saint-Louis, écoulent sur place leurs marchandises. Toujours en raison de l'inadéquation entre l'offre et la demande, conséquente à la période insurrectionnelle, la filière viande, notamment celle du bœuf, va être touchée à la fin de l'année avec 1000 tonnes de surplus à écouler. On retrouve Jean-Christophe Gnotou.
En année normale, notre taux de couverture sur la viande de porc était à 100% et sur la viande bovine était de l'ordre de 60%. Donc on avait un delta en importation sur la viande bovine, notamment sur des morceaux nobles, hein, comme l'entrecôte par exemple, mais d'autres morceaux. Et effectivement, donc là on va avoir environ plus de 1000 tonnes de viande supplémentaire. Donc il va falloir effectivement qu'on limite les importations pour qu'on consomme local. Hein. Donc il s'agit aussi de mettre en avant cette très très bonne viande de bonne qualité calédonienne pour qu'elle soit privilégiée par les consommateurs calédoniens.
Enfin, un coup dur va être porté en fin d'année à la filière de la pêche hauturière avec l'arrêt de la desserte nippone par Air Calin. Le Japon pèse à lui seul 80% des exportations de thon de qualité et représente donc un manque à gagner très lourd pour la filière.
Chaque année, entre 250 et 300 tonnes de thon frais de haute qualité sont livrées sur le marché japonais. Un marché qui, vous le savez, est friand de produits de qualité et qui le paye bien. Et donc, on parle là d'un manque à gagner de l'ordre de 250 millions pour la filière hauturière, ce qui revient à dire que la filière sera en très très grande difficulté si on enlève effectivement cette distribution sur le marché japonais. Donc ça nous inquiète beaucoup pour nos armements de pêche qui étaient déjà en difficulté, notamment depuis quelques années avec l'augmentation du prix du carburant. Sur le marché local, on va aussi se retrouver avec une consommation qui va être réduite, et donc du thon blanc et du thon jaune qui aura du mal aussi à trouver sa place sur le marché.
Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche, la CAPNC qui va là aussi devoir trouver des filières pour écouler cette protéine locale de très haute qualité que le thon. La pêche côtière a d'ailleurs, elle aussi, commencé à développer ses marchés de proximité. La Chambre prévoit, elle, deux gros marchés en septembre. Le premier à Bouraï et le 7 à Ducos, le 14 septembre, pour lequel est prévu le doublement des surfaces des exposants.
Et à noter que c'est lors de ce long week-end du 15 août que devait se tenir la foire de Bouraille, le plus gros événement de brousse qui rassemble, on le rappelle, 25 000 personnes chaque année et sert d'écrin à l'agriculture et à l'élevage. La foire de Bouraille, qui n'a jusque-là jamais été annulée, devrait se tenir le week-end du 11 novembre. Allez, on passe en revue le programme festif du week-end et on débute bien sûr avec le Salon des artisans calédoniens qui se poursuit, Charlotte Coulson.
Oui, plus de 80 stands sont rassemblés à la Maison des artisans depuis hier matin et jusqu'à dimanche. Sur place, de nombreux exposants, certains ne sont d'ailleurs pas artisans, mais profitent du salon pour relancer leur économie, mise à mal depuis le 13 mai. C'est le cas de Benjamin Lavigne, gérant de la société Jardispa, de l'entreprise NEC Nettoyage Extérieur Calédonien ou encore de Senzil Pacifique qui travaille dans le solaire. Leurs marchandises représentent un certain investissement pour les consommateurs. Ils doivent donc s'adapter au marché en ajustant leurs prix. On écoute leur témoignage.
Moi, je propose jusqu'à moins 300 000 francs, voire moins 400 000 francs sur les produits, ce qui est tout à fait normal aussi. On est dans une période qui est très particulière. Donc, pour pouvoir continuer à avoir une activité qui tourne, il faut qu'on mette en place des mesures particulières. Et c'est vrai que du coup, ces mesures, elles sont sur à la fois nos marges. J'ai des produits que je vends presque au prix de revient.
Alors, au-delà de pouvoir se le permettre, on n'a pas vraiment le choix. L'économie est un petit peu fatiguée ces temps-ci. En effet, là, on fait des prix pour le salon jusqu'à moins 20%. Hein. Nouvelle entreprise oblige, on doit se faire connaître.
Ben, on a revu nos prix pour tout ce qui est batterie. On essaie de faire un effort. Et pareil, on fait des réductions salon, spécifiques salon pour les installations qui peuvent aller jusqu'à 100 000 francs. Donc voilà, montrer aux clients qu'on fait un effort aussi et qu'on est là.
Le Salon des artisans est ouvert demain de 8h30 à 16h et dimanche de 8h30 à midi.
Et puis ce week-end encore, les marchés qui ont repris depuis quelques semaines maintenant continuent dans plusieurs communes, Charlotte.
Oui, vous pouvez retrouver comme le week-end dernier le marché de Rivière-Salée à la place Guégan ce samedi de 7h30 à 17h. Et puis à Païta, le marché solidaire continue sur la place du marché municipal. Ce sera demain de 6h à midi.
Et pour les plus jeunes maintenant, l'Aquarium des Lagons organise un après-midi festif dédié aux raies et aux requins.
Ça se passe ce dimanche de 13h à 17h. Les enfants pourront participer à des jeux et en apprendre un peu plus sur ces animaux aquatiques. Les familles auront notamment l'occasion de découvrir les jeunes requins léopards élevés à l'aquarium.
Et pour terminer, demain, le Rex met à l'honneur la culture coréenne en célébrant un genre musical et c'est la K-pop.
Oui, c'est le K-pop Day 2024. Après le succès de l'édition de l'année passée, le Rex renouvelle ce format ce samedi en collaboration avec des groupes de musique et de danse coréenne. Au programme, des blind tests, des quiz ou encore des flash mobs. Un rendez-vous pour les petits comme pour les grands qui se passe demain de 10h à 16h.
Merci beaucoup Charlotte Coulson. Et une parenthèse de légèreté, le troisième album de Kaori est sorti aujourd'hui. Le groupe calédonien était l'invité de notre édition ce midi. Un album intitulé « Dans l'attente d'un signe » enregistré avant le début d'une crise qui n'a pas fait perdre leur humour à Thierry et Kiki.
C'est-à-dire que nous, quand on sort un album, il y a le Covid. Après, ça c'était en 2019. Ensuite, il y a ce qu'on a vécu là. Et puis, vraiment, on a peur de sortir le quatrième, quoi. Qu'est-ce que ça va être ?
Attendez un peu, oui.
Alors, dans cet album, il y a la crème des musiciens parisien.
Oui, tout à fait. C'est des amis maintenant, parce que ça fait le troisième qui enregistre avec nous, le troisième album. Ils sont toujours avec nous, donc...
C'est les musiciens des grandes stars qui nous font l'honneur de venir nous donner un petit coup de main sur cet album, et je pense que ça s'entend quand même.
Carpe diem, carpe diem, je m'appelle dans les fruits de l'instant.
Carpe diem, je distille mon élixir de force et de plaisir. Et voilà, et si vous êtes intéressé, demain, le groupe Kaori fera découvrir ce nouvel album au cours d'un mini-concert à la librairie Calédo Livre à 14h30. Thierry et Kiki vont ensuite entamer une tournée en métropole et en Europe avant de revenir en concert à Nouméa. Ce sera le 19 décembre prochain dans les studios de RRB.
RRB, 18h06.
Et puis à Ducos, les enfants de Soccer NC profitent peut-être de leur dernier stage de vacances. Le club de football n'a plus les moyens de continuer son activité. Le couvre-feu, la fin des compétitions fédérales de foot, les difficultés économiques. Le club n'arrive plus à se relever, explique Julien Vol, le gérant de Soccer NC.
Après le Covid, ça marchait déjà plus très bien. Donc on était à peu près à 200-250 000 francs par semaine de revenus. Là, si on arrive à faire 50-60 000 francs, on est content. On commence à avoir des dettes, on commence à avoir du mal à pouvoir payer nos fournisseurs, nos obligations au niveau fiscal. Donc voilà, la fermeture est inéluctable. C'est le sport le plus pratiqué en Calédonie. On a 12 000 licenciés contre 3 000 le second sport pour la natation. Quoi qu'il arrive, le foot, lui, continuera. Après, dans quelles conditions? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'éducateurs aussi en club qui vont arrêter. Pour les compétitions, il n'y a plus de championnat. Donc apparemment, ils vont mettre en place quelques tournois, en fait, pour que les jeunes continuent à jouer un petit peu. On va avoir un gap qui va se créer parce que le temps de récupérer tous les enfants l'année prochaine, il y aura eu un manque pendant quasiment 6 mois où ben, ils n'auront pas touché le ballon ou au moins ils n'auront pas appris à jouer au foot. Parce que le foot, c'est une science, c'est un langage et si pendant 6 mois, vous ne pratiquez pas, vous perdez.
Bien entendu, l'annonce de la fermeture a touché les footballeurs en herbe, mais les enfants s'en iront des souvenirs plein la tête.
Les coachs, ils nous aident à trouver des nouveaux trucs pour que je m'améliore. Et comme ça, bah, je peux progresser et continuer de jouer au foot.
J'ai commencé à venir au soccer, j'avais 11 ans. Depuis que j'ai connu le soccer, j'ai fait que de faire des allers-retours toutes les vacances. Je me suis bien entendu avec Julie et Bernard, du coup, ceux qui s'occupaient du soccer. Au fil des années, eux aussi m'ont bien accueilli et ils m'ont proposé de venir les aider pendant les vacances. Donc, travailler avec eux.
On joue avec les copains, on s'amuse et tout. Mais des fois, t'as envie de gagner, d'avoir des compétitions, enfin, d'avoir des coupes, etc.
Ils arrêtent les compétitions, c'est très casse-pied et c'est dommage pour le soccer aussi que ça ferme.
Et pour plus d'informations sur le club Soccer NC, vous pouvez contacter le 29 72 72 29 72 72. 18h08, dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive de votre week-end.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
La Maison de la Batterie, le spécialiste du démarrage, voiture, camion, bateau. Distributeur Varta, la qualité allemande, numéro 1 en Europe. Bonne nouvelle, Ateco a réouvert dans la même zone, au 51 rue Auer, à Ducos. Téléphone 27 97 97.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Léana Colombo.
Et oui, l'agenda sportif du week-end avec du football. Après 3 mois de trêve estivale, c'est l'heure du retour du championnat de France de Ligue 1, Jean-François.
Le Paris Saint-Germain remet son titre en jeu. Il ouvrira d'ailleurs le bal la nuit prochaine au Havre. Le club de la capitale, malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, fait une nouvelle fois figure de favori à sa propre succession. Les outsiders au titre sont tout de même nombreux. Monaco d'abord, dauphin du PSG la saison passée. Le directeur général du club ambitionne de faire mieux que l'an dernier et donc de détrôner les Parisiens. Les autres places européennes devraient se jouer entre Lille, Nice et les deux Olympiques, Marseille et Lyon. Rennes fait office aussi d'outsider sérieux. Le club breton a déçu la saison passée avec une 10e place finale. Il tentera forcément de rebondir. Dans le ventre mou de cette Ligue 1, on devrait retrouver Strasbourg, Montpellier, Toulouse ou encore Saint-Etienne et Brest. Et puis en bas de classement, les bookmakers sont unanimes. Angers, Le Havre, Auxerre et Nantes devraient se battre pour le maintien. Rappelons que la Ligue 1 compte 18 équipes. À la fin de la saison, les 3 premiers seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Le 4e devra passer par un tour de qualification. Le 5e ira en Ligue Europa et le 6e participera à un tour de qualification à la Ligue Europa Conférence. Les équipes qui termineront aux 2 dernières places seront reléguées en Ligue 2. Celle qui terminera 16e effectuera un barrage contre le vainqueur des play-offs de Ligue 2. Play-offs disputés entre les 3e, 4e, 5e de la saison régulière. Ce week-end, c'est donc la première journée du championnat. Avec, je le disais tout à l'heure, demain matin, le PSG en ouverture qui se déplace sur la pelouse du Havre. Début de la rencontre à 5h45, heure de Nouméa. Dans la nuit de samedi à dimanche, Marseille jouera à Brest. Reims recevra Lille et Monaco accueillera Saint-Etienne. Cette première journée se terminera dans la nuit de dimanche à lundi avec Auxerre-Nice, Angers-Lens, Montpellier-Strasbourg, Toulouse-Nantes et Rennes-Lyon. Et puis on notera aussi que c'est le début de la Ligue 2 avec notamment comme affiche Metz-Bastia, Rodez-Ajaccio ou encore Guingamp-3.
Et Jean-François, il n'y a pas que la Ligue 1 qui reprend ce week-end.
Pas du tout, effectivement. On va jouer aussi en Angleterre avec le top départ pour la Première Ligue. Un choc d'entrée pour le champion en titre, Manchester City, qui sera opposé à Chelsea. En Espagne aussi, première journée du championnat ce week-end. Le Real Madrid de Kylian Mbappé affrontera Mallorca pendant que le Barça ira à Valence et que l'Atlético Madrid sera opposé à Villarreal. En Italie, la Serie A reprend aussi dans la nuit de demain à dimanche avec en ouverture deux matchs, Gênes-Inter Milan et Parme-Fiorentina. En revanche, en Allemagne, il faudra attendre le week-end prochain pour le début de la Bundesliga.
Et on retourne en métropole avec du cyclisme et les trois dernières étapes du Tour de France Femmes.
Trois étapes de montagne avec d'abord 159 km la nuit prochaine pour nous entre Remiremont et Morteau. Demain soir, 166 km et une arrivée au Grand Bornand avant l'ultime étape dans la nuit de dimanche à lundi avec au programme le col du Glandon et l'Alpe d'Huez, deux cols classés hors catégorie. Au général, après les cinq premières étapes, c'est la Polonaise Nievia Doma qui est en tête. Demi Vollering, la grande favorite, a chuté hier. Elle est désormais 9e. Les Françaises Cédric Carboal et Juliette Labousse sont 4e et 5e à 47 et 56 secondes de la leader.
Et du rugby dans la région avec la deuxième journée du rugby championship.
Et la Nouvelle-Zélande va devoir se rattraper sur ce match retour face à l'Argentine après avoir perdu 38-30 la semaine dernière. Le match entre les All Blacks et les Pumas aura lieu demain à 18h. Un peu plus tard dans la soirée, l'Australie affronte l'Afrique du Sud. À l'aller, les Springboks étaient largement imposés 33-7.
Et pas de Formule 1 ce week-end, mais un Grand Prix de moto.
Oui, les pilotes ont rendez-vous en Autriche sur le circuit de Spielberg. L'Italien Francesco Bagnaia va tenter de réaliser le triplé après ses victoires en 2022 et 2023. L'an passé, les Français avaient terminé 9e et 10e. 9e pour Quartararo, 10e pour Zarco.
Et un mot de tennis avec le Master 1000 de Cincinnati.
Et le dernier Français encore en lice dans ce tournoi, c'est Gaël Monfils. Il affronte le numéro 3 mondial Carlos Alcaraz. Le match a été interrompu par la pluie. Alors qu'Alcaraz avait remporté le premier set, au moment de l'arrêt, les deux hommes jouaient le tie-break du deuxième set et Monfils menait 3-1.
Et on termine cet agenda sportif du week-end avec un joli programme sur le territoire, avec du football d'abord.
Et un match amical prévu demain à Païta, sur le terrain synthétique de la Fédération. La sélection A de Nouvelle-Calédonie affrontera les U19. Une première rencontre de préparation en vue des qualifications à la prochaine Coupe du Monde. L'entrée est évidemment gratuite. Du tennis aussi avec la suite de l'Open du Receiving. Suite du tournoi qui a débuté, on le rappelle, au début du mois et qui se terminera avec les finales le week-end prochain. En tout, environ 120 joueurs et joueuses sont engagés. Demain et dimanche, on jouera les 16e et les 8e de finale hommes. Chez les femmes, la finale s'est jouée hier. Lindsay Moto-Nekiriai a conservé son titre en battant Mélanie Dalle en 2-7. Enfin, on va terminer avec un résultat de golf et Jules Guépy s'est imposé lors de la dernière journée du challenge des jeunes cagous sur le parcours de Tina. Tournoi réservé aux jeunes de 6 à 21 ans. Dans la catégorie confirmée, Jules Guépy s'est imposé sur Lola Alibo en match play. En catégorie débutant, Louis Cuny a battu Neil Leroux.
Merci beaucoup Jean-François Bonin pour toutes ces précisions et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, le ciel sera largement étoilé, notamment sur l'ouest. Des passages nuageux résisteront sur l'est et pourront donner quelques ondées. Le vent s'orientera au secteur nord-est en faiblissant autour des 10 nœuds, voire plus de 15 nœuds aux extrémités de la Grande Terre. Il sera variable faible sur l'ouest avec encore des accélérations à 15 nœuds dans l'axe des vallées. Les températures minimales seront souvent de 20 à 22 degrés sur l'est et les îles et descendront jusqu'à 14 degrés par endroit sur l'ouest. Demain matin, belle matinée avec un large soleil. Toutefois, au réveil, quelques passages nuageux pourront encore déposer de faibles averses sur l'est. Le vent de secteur nord-est soufflera entre 5 et 10 nœuds, localement 15 nœuds aux pointes de la Grande Terre. La côte ouest sera déventée, puis de faibles brises de mer s'établiront.